Il est mort Jim, lu par l'auteur, épisode 18, chapitre 4. Jean Morzel avait apparemment déclaré que les religions disaient n'importe quoi. Cette impression d'amour universel n'était pourtant pas sans rappeler les discours catholiques. La page du site que je consultais se terminait sur ces mots. C'est une certitude, il y a un au-delà, mais en attendant, il faut vivre ici. J'aurais aimé pouvoir prononcer ces premières paroles. En faveur de la contre-argumentation du blogueur, David Rossini était son nom, il y avait la personnalité d'Eduardo Pastor. Les nombreuses histoires qu'il s'était plu à raconter, avant de sombrer dans son malaise diabético-alcoolique avec un brio certain, montraient qu'il s'intéressait de près à l'univers ésotérique. Le troisième point de David Rossini avait manifestement du poids. Le contenu des EMI, comme celui des rêves ou des hallucinations, dépend de la culture de l'expérienceur. En effet, l'insistance sur la lumière chez les expérienceurs occidentaux faisait bien partie de l'imaginaire chrétien où Dieu est lui-même lumière. Que voyaient donc les orientaux par exemple? Les Thaïlandais et les Indiens ne parlaient pas de cette clarté. Les paysages décrits apparaissent également culturellement déterminés. Les expérienceurs japonais font fréquemment référence à des visions de longues rivières sombres et de fleurs magnifiques, deux images symboliques très présentes dans l'art nippon. Rossini avançait enfin que Raymond Moody avait lui-même déterminé une série de récits, et peut-être même de visions, puisque depuis la parution de son best-seller, « La vie après la vie », le tunnel était devenu récurrent dans les témoignages. David Rossini omettait de noter ou ignorait qu'on retrouvait la question de la lumière dans les religions orientales et au niveau symbolique et matériel ô combien dans le bouddhisme. Cette objection ne me vint que plus tard. L'invitation arriva par courrier, glissée sous ma porte, à la manière liménienne. Ma tante Valentine d'Oro Preto me conviait au lancement du livre « A Passione Tiradentes » qu'elle avait écrit avec son étudiant Enrique. C'était un joli document avec le titre du roman entre une photo de Paris et une autre d'Oro Preto. Le lancement aurait lieu à la librairie de la ville brésilienne que j'avais fréquentée lors de mon précédent séjour, dans 2 semaines, un samedi matin. J'aurais bien voulu y être, pas tellement pour l'événement, plutôt pour la ville. Mais c'était trop loin, trop cher, et je manquais de temps. J'écrirai un message de sympathie à ma tante. L'idée d'un voyage à Oro Preto ne me quitta pas de la semaine, dont je passais une grande partie à la surveillance des examens de fin d'année à la PUC. La date du 15 décembre n'était-elle pas finalement propice à un changement d'emploi du temps? On entrait dans la période des fêtes, puis des vacances d'été. Les cours à l'université ne reprendraient qu'en février. J'avais un billet d'avion pour la France, avec l'intention de passer Noël avec ma mère et ma sœur, mais ce n'était que le 23. Je disposais d'une semaine pour une éventuelle escapade à Oro Preto. Le voyage n'était pas si long, et pas non plus très cher, bien que la période fît craindre le contraire. 5 heures de vol jusqu'à São Paulo, puis 1 heure jusqu'à Belo Horizonte. Le tout pour $400 aller-retour. Je pouvais me le permettre. Mon salaire à l'université n'était pas mirobolant, mais hormis le budget voyage et désormais un bel appartement, je vivais chichement et aimais cela. J'appelais Valentine qui parut très contente de ma venue. Elle irait me chercher à Belo Horizonte et je serais bien sûr hébergé chez elle. L'envol de Lima est une mesure à 3 temps. L'avion perce la brume, effectuer un grand virage pour se retrouver au-dessus de l'océan, puis prend aussitôt de l'altitude pour survoler les Andes. Je connaissais bien ce rituel et m'amusais à imaginer une décorporation. Un petit clin d'œil à mes recherches récentes. Je me vis sur la falaise de Miraflores, marchant d'un parc à l'autre, comme je le faisais souvent, observant le Boeing dans lequel je volais. Le ciel, en haut des Andes, était dégagé. C'était beau de glisser au-dessus des rochers et des pics enneigés. L'avion semblait avoir pris sa vitesse de croisière et on n'entendait plus les réacteurs. L'univers bleuté s'avançait à la rencontre de l'appareil dans une ambiance ouatée. Je subis 2 heures d'attente à l'aéroport de Guarulhos de São Paulo, insuffisante pour me rendre dans la ville. Jamais je n'avais vu autant de corps bronzés juchés sur de hauts talons et lourdement odorants au point qu'en les croisant, on croyait entrer dans une parfumerie. Une armée de poupées Barbie en jeans serrés et cheveux longs, dont l'âge ne pouvait être deviné qu'en scrutant les visages. L'avion avait-il atterri par erreur en Californie? Valentine était bien à l'heure à l'aéroport de Belo Horizonte. Ce n'était pas une mince affaire avec sa vieille coccinelle orange, comme je croyais qu'il n'en existait plus, qui ne devait sortir du garage qu'en de rares occasions. Elle pétarada sur les routes escarpées du Minas Gerais, tandis que nous discutions, tirant sur nos cigarettes.